chapitre 17. Dans les grises batignolles, le salon était humble, orné seulement de gravures provenant de la calcographie du Louvre et de figurines, de vases, de coupes, de plats de Sèvres, ornements d'un effet médiocre qui attestait les liens de la maîtresse de la maison avec les fonctionnaires de la République. Madame Chéral, née Loyer, était la sœur du ministre de la Justice et des Cultes. Veuve d'un commissionnaire de la rue d'Hauteville, qui ne lui avait rien laissé, elle s'était attachée à son frère par besoin de vivre et par ambition maternelle, et elle gouvernait ce vieux garçon qui gouvernait le pays. Elle l'avait obligé à prendre pour chef de cabinet son fils Maurice, à qui il n'était pas facile de trouver un emploi et qui ne réussissait que dans les fonctions publiques. L'oncle Loyer avait sa chambre dans le petit appartement de l'avenue de Clichy, et il venait l'habiter chaque fois qu'il était pris d'étourdissement et de somnolence, comme il lui arrivait de l'être à chaque printemps, car il se faisait vieux. Mais dès qu'il se sentait la tête et le pied sûr, il retournait dans le grenier qu'il habitait depuis un demi-siècle, d'où il voyait les arbres du Luxembourg et où les policiers de l'Empire étaient venus deux fois l'arrêter. Il y conservait la pipe de Jules Grévy. C'était là peut-être le plus riche trésor de ce bonhomme qui avait traversé dans le Parlement l'âge de l'éloquence et l'âge des affaires, manié à l'intérieur les fonds secrets de trois exercices, acheté pour le parti beaucoup de conscience, corrupteur incorruptible, infiniment indulgent aux prévarications de ses amis, mais jaloux de garder dans le pouvoir l'avantage de sa pauvreté presque narquoise, un peu cynique, têtu, invétéré, honorable. L'œil éteint maintenant et l'esprit paresseux, retrouvant par intervalle son antique adresse et son esprit de décision, il appliquait ses dernières forces au billard et à la concentration. D'une intelligence bornée et d'une habileté médiocre, Madame Chéral conduisait à son gré ce vieillard rusé, tranquille, morose et grivois, qui, ministre pour la sixième fois dans le cabinet qui succéda au cabinet clérical, voyait avec résignation son neveu Maurice remplir, sans esprit de conduite ni sens moral, les fonctions indéterminées du chef de cabinet. Loyer était sans doute un peu surpris de découvrir chez son neveu des inclinations réactionnaires et cléricales, mais il était trop sujet à l'apoplexie pour contrarier sa sœur. Madame Chéral restait chez elle ce jour-là. Elle reçut très affectueusement Madame Worms Clavelin, qui vint la voir un peu plus tard, quand il n'y avait plus à attendre d'autres visites. On se fit de petits adieux. La femme du préfet retournait le lendemain à sa préfecture. « Déjà, ma mignonne ? Ah, il le faut, répondit Madame Worms Clavelin, très douce, l'air ingénu, sous les plumes noires de son chapeau. C'était sa tenue de visite, ce qu'elle appelait se mettre en cheval de corbillard. « Vous dînez avec nous, mignonne. On ne vous voit pas déjà si souvent à Paris. Ce sera tout à fait dans l'intimité. Je ne pense pas que mon frère vienne. Il est si occupé, si absorbé en ce moment. Mais nous aurons probablement Maurice. Les jeunes gens sont rangés à présent. Ce n'est plus comme autrefois. Maurice passe des soirées entières avec moi. » Elle mit à persuader Madame Worms Clavelin l'onction pénétrante d'une âme sociable. « Ce sera sans cérémonie. Vous serez bien comme vous êtes, puisque je vous dis que nous serons en famille. » Madame Worms Clavelin avait obtenu du ministre de l'Intérieur la croix d'officier pour son mari, et du ministre de la Justice et des Cultes, Loyer, la promesse que l'abbé Guitrel serait présenté au pape comme candidat à l'évêché de Tourcoing sur une liste comprenant les ecclésiastiques désignés aux six évêchés ou archevêchés vacants. Rien ne la retenait plus à Paris. Son intention était de partir le soir même pour la préfecture. Elle s'excusa sur un tas d'affaires, mais Madame Chéral fut pressante. Quand la résistance de la préfète se prolongea, Madame Chéral prit une voix aigre et des lèvres minces qui montraient sa contrariété. Madame Worms Clavelin ne voulait pas la fâcher, mais elle accepta. « À la bonne heure, et je vous le répète, ce sera sans cérémonie. » Ce fut sans cérémonie. Loyer ne vint point, Maurice attendu ne vint point, mais on eut une dame à bureau de tabac et un vieillard assez considérable dans l'enseignement primaire. La conversation fut sérieuse. Madame Chéral, qui ne s'intéressait vraiment qu'à ses propres affaires et n'avait de malveillance que pour ses amis intimes, désigna les hommes qui lui semblaient dignes du Sénat, de la Chambre et de l'Institut, non qu'elle s'occupât de politique, de science ni de lettres, mais parce qu'elle se croyait obligée, comme sœur d'un ministre, d'avoir des idées sur tout ce qui fait la grandeur intellectuelle et morale du pays. Madame von Sclavelin écoutait avec une douceur charmante. Elle garda constamment cet air d'innocence qu'elle prenait dans les compagnies qui ne l'amusaient pas. Elle avait pour le monde une manière de baisser les yeux et qui excitait les vieux messieurs et dont l'administrateur chenu de la grammaire et de la gymnastique nationale fut troublé. Il la cherchait du pied sous la table. Cependant, elle méditait de prendre le tramway qui la porterait de l'avenue de Clichy à l'Arc de Triomphe, où, dans ce rayonnement d'avenue, semblable à une croix d'honneur, était son family house. Mais en rentrant dans le salon au bras du vieux monsieur, qui avait rendu de signaler service à l'instruction primaire, elle y trouva le jeune Maurice Chéral, qui, retenu tard après la séance au ministère, avait dîné au cabaret et était venu s'habiller pour finir sa soirée au théâtre. Il regarda Madame von Sclavelin avec intérêt et s'assit près d'elle sur le vieux divan maternel, au-dessous d'un grand plat de sèvres décoré dans un style néo-chinois et pendu au mur dans un cadre de peluche bleue. Madame Clavelin, j'avais justement à vous parler. Madame von Sclavelin avait été brune et maigre, et de la sorte qu'elle n'avait pas trop déplu aux hommes. Avec le temps, elle était devenue grasse et blonde. Sous cette nouvelle forme, elle ne déplaisait pas aux hommes. Vous avez vu mon oncle hier? Oui, il était charmant pour moi. Il va bien aujourd'hui? Fatigué, très fatigué. Il m'a remis le dossier. Et quel dossier? Le dossier des candidatures aux 6 évêchés vacants. Vous désirez beaucoup que l'abbé Guitrelle soit nommé, hein? C'est mon mari qui le désire. Votre oncle m'a dit que l'affaire était dans le sac. Mon oncle, si vous vous en rapportez à ce que dit mon oncle, il est ministre, il ne peut pas savoir, on le trompe. Et puis, il ne me dit que ce qu'il veut dire. Pourquoi ne vous adressez-vous donc pas à moi? Avec une pudeur charmante, Madame von Sclavelin répondit à voix basse: Eh bien, je m'adresse à vous. Vous faites bien, répondit le chef de cabinet. Vous faites d'autant mieux que votre affaire ne marche pas du tout, et qu'il dépend de moi qu'elle marche ou ne marche pas. Mon oncle vous a dit qu'il allait faire les 6 présentations au pape? Oui. Eh bien, elles ont été faites, je le sais bien, c'est moi qui les ai faites. Je m'intéresse particulièrement aux affaires ecclésiastiques. Mon oncle est de la vieille école, il ne comprend pas l'importance de la religion. Moi, j'en suis pénétré. Voici la situation. Les 6 candidats ont été présentés au pape. Le Saint-Père n'en a accepté que 4. Pour les 2 autres, M. Guitrelle et M. Moru, sans les refuser absolument, il se déclare encore mal informé. Maurice Chéral secoua la tête. Il est mal informé, et quand il le sera mieux, je ne sais pas trop ce qu'il dira. Entre nous, chère madame, Guitrelle m'a l'air d'une fripouille, et l'on ne saurait donner trop de soin au choix des évêques. Le corps épiscopal est une force sur laquelle un gouvernement sage doit pouvoir s'appuyer. C'est ce qu'on commence à comprendre. Vous parlez bien, dit Madame von Sclavelin. D'un autre côté, reprit le chef de cabinet, votre candidat paraît intelligent, instruit, d'un esprit ouvert. Alors, dit Madame von Sclavelin avec un sourire délicieux. C'est délicat, dit Chéral. Chéral n'était pas très intelligent. Ils ne considéraient jamais qu'un petit nombre de choses, et ils se déterminaient par des raisons que leur futilité rendait difficiles à démêler. Aussi croyait-on qu'il avait, dans un âge encore tendre, des idées personnelles. Pour l'instant, il venait de lire un livre de M. Humbert de Saint-Amand sur les Tuileries pendant le Second Empire, et il avait été frappé à cette lecture de l'éclat d'une cour brillante, et il en avait conçu l'idée d'un genre de vie où, comme le duc de Morny, il associerait les plaisirs à la politique et jouirait du pouvoir de toutes les manières. Il regarda Madame von Sclavelin d'un certain air dont elle comprit fort bien l'intention. Elle resta silencieuse et tint les yeux baissés. Mon oncle, poursuivit Chéral, me laisse toute latitude dans cette affaire qu'il n'intéresse pas. Je puis procéder de deux façons, ou bien proposer dès à présent les quatre candidats agréables à Rome, ou bien déclarer aux nonces qu'aucun mouvement épiscopal ne sera soumis à la signature du président de la République tant que le Saint-Siège n'aura pas agréé les six candidats. Je ne suis pas encore décidé, mais je serai charmé de m'entendre avec vous à ce sujet. Je vous attendrai après-demain à 5 heures dans une voiture fermée devant la grille du parc Monceau au coin de la rue Vigny. Le risque n'est pas grand, pensa Madame Worms-Clavelin, et elle ne répondit que par un léger battement de ses paupières.